Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un Masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec tout droit sorti de la Thalasso de Cabourg, Nicolas Chalère de l'Obs, Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles, Xavier Le Herpeur de Septième Obsession et depuis hier soir l'animateur sur notre chaîne d'une nouvelle émission consacrée aux séries, une heure en série tous les samedis soirs à l'heure du masque mais la veille. Donc le complément idéal et indispensable au masque et la plume. Et enfin Eric Neuhoff du Figaro, Eric qui signe chez Albin Michel un redoutable, pour moi délectable, pamphlet qui s'appelle « Très cher cinéma français » où il dénonce pêle-mêle nos polars mal ficelés, nos petites romances à la con, où il se moque de la fémis. Oui, juge qu'un pays où Isabelle Huppert est considérée comme la plus grande actrice est un pays qui va mal. Où il traite Kechiche de Lelouch classé X. Où il regrette bien sûr les années 70. Me regarde pas comme ça, Jean-Marc, je parle du livre d'Éric.
Je me retiens.
Où il pense que le cinéma français est un champ de ruines que presque plus personne ne visite. Tu dis même que le cinéma français est devenu un vieux dégoûtant. Je remarque que tu épargnes dans ton livre Arnaud Desplechin, dont selon toi la caméra est une ballerine, et dont on parle ce soir, ainsi que des films Thalasso de Guillaume Niclou, Late Night de Denis Chaganatra, Francky d'Irasax, avec Isabelle Huppert, Une fille facile de Rebecca Zlotowski, La vie scolaire de Grand Corps Malade, et si on a le temps de la chute du président. Tu n'as rien à ajouter, non?
Sur Isabelle Huppert, non.
Non. Et Jean-Marc, tu voulais dire un mot, non?
J'ai pas encore lu, mais je vais le lire avec une très grande vigilance.
Je crois qu'il t'a fait une dédicace particulière. D'ailleurs, il est parfois question un tout petit peu des Inrecuptibles, mais rapidement.
Oui, rapidement.
Hein, rapidement. Bon, allez, on commence par le courrier. Et le courrier, c'est un déluge de messages ulcérés. Après le dernier masque et la plume, où là tu es épargné Eric cette fois-ci, hein, où on parlait de Once Upon a Time in Hollywood, le film de Tarantino, Séverine Bruno, ce snobisme qui est le tien, mon très cher masque, et qui consiste à cracher sur le très bon cinéma populaire pour te tirer sur la tige, dès qu'une trentenaire de la Fémis filme en plan fixe des étudiants qui fument des clopes en prétendant refaire le monde, ne cesse de m'agacer. Regarde pas comme ça, Xavier. Désolé, dit Séverine Bruno, mais quand je sors du Tarantino, j'ai le sourire aux lèvres et j'en ai eu pour mes 12 euros. Alice Adrien de Paris, ta fâcheuse tendance, mon masque, a oublié que le cinéma est à la base un divertissement. Et Tarantino, c'est ça, du divertissement. Dans le genre cinoche, Tarantino est de loin le meilleur de son temps. Bruno Timbas, mes fidèles compagnons du dimanche soir, détendez-vous du string et prenez Tarantino pour ce qu'il est, un formidable enfant du cinéma. Éric Bonnefille du Vésinet, Tarantino est ici très inspiré et montre dans l'écriture, la mise en scène et la direction d'acteurs une maîtrise éclatante. Karine, qui habite Chamalières, Tarantino est un sale gosse génial avec ses obsessions et vous, vous avez perdu votre âme d'enfant. Mathieu Dauchy, Tarantino est un merveilleux assembleur de 1000 images piochées dans les recoins inexplorés du cinéma mondial. Son film est une merveille. Stéphane de Toulouse a trouvé le regard porté sur Sharon Tate, émouvant, bienveillant et pudique. Pudique. Arnaud Sanquer tient à souligner la performance majuscule de DiCaprio. Il est bluffant, au contraire pour Olivier Petot de Romplonge. Brad Pitt est magnifique, il surpasse DiCaprio, il explose à l'écran, la doublure est meilleure que le premier rôle. Once Upon a Time in Hollywood m'a transporté, dit encore Alexis Damien. C'est un film parfait, mais peut-être un peu plus que cela. Alors ça, je ne sais pas ce que ça peut être. Plus que parfait, peut-être plus que parfait. Mais arrête de faire la gueule, Xavier. Benoît Serenge, Doulgat, Tarantino se renouvelle en filmant un Hollywood fantasmé par son imaginaire passionné. Et là, on en vient à un autre débat. C'est Oyan Tobias des Côtes d'Armor qui juge que, pour sa part, que les affirmations de Xavier sont fausses. Tarantino n'est ni de droite, ni d'extrême droite. Il a affirmé que Trump était un fou dangereux et il s'est engagé contre le racisme et les violences policières. Et Denis Cadoret de Douai ajoute, pour répondre à Xavier Le Herpeur, non, Tarantino n'est pas en faveur de la peine de mort. Non, il n'est pas sur la ligne de Trump. Et non, Tarantino ne prône pas la possession d'armes. Jean-Pierre Vasseur de Rennes.
Fixé à longueur de temps, mais enfin, pour qui si les gens ont décidé de ne pas le voir, c'est leur
problème. Vote Tarantino, hein. Mais l'accusation de Le Herpeur, remportée par sa détestation du film, ce qui est son droit, m'a semblé relever plus de l'anathème que de faits avérés. Mathieu Lemas, je voudrais que Pierre et Xavier, Pierre Murat, Xavier Le Herpeur, lui expliquent en quoi la fin du film viendrait cautionner un port d'armes pro-Trump et prouver l'idéologie extrême droitière du réalisateur. Tu veux peut-être répondre avant que je lise
ce qu'on... Non, non, ils ont le droit de le penser, mais quand même, depuis le boulevard du crime, en passant par Kill Bill, il y a quand même un nombre de théories qui sont très souvent récurrentes dans les discours de droite et d'extrême droite, et pas simplement aux États-Unis, qui sont promues par Tarantino. Alors, ils ont décidé que Tarantino était un génie, donc on lui pardonnait tout. Je suis désolé, moi je ne vois pas ça du tout dans les films. Je trouve qu'il est très prosélyte de choses extrêmement discutables, et si à la fin du film, il ne voit pas que ça défend le port d'armes à la maison... arme très particulière qui en plus fait référence à un événement qui est en filigrane dans le film et totalement évacué par Tarantino qui est la guerre du Vietnam, bah je suis désolé, on touche là à la quintessence absolue du mauvais goût et du point de non-retour pour moi. Mais si maintenant on exonère et qu'il est comme au Milbourne possesseur de la carte prioritaire, véhicule prioritaire, bah voilà, qui passe avec la tractopelle de la méchanceté et de la bêtise, les gens l'applaudissent, bon, moi pas.
Alors je te rassure, et pour finir, il y a quelques messages qui sont en ta faveur et en faveur de Pierre Murat, des réfractaires donc à Tarantino comme Pierre Cusor qui a jugé Once Upon a Time soporifique et dont la fin peut se résumer selon lui en quatre lettres. Rien. Jacques Paloumet d'Anières sur scène dénonce une interminable projection dont l'objectif pourrait bien être pour Tarantino d'étaler façon confiture sa culture cinématographique. François Zaccari, je me suis tellement ennuyé que j'ai listé les ressemblances foireuses. Al Pacino s'est fait la tête de Woody Allen. Polanski est grimé en Austin Powers. Damian Lewis ressemble plus à Christophe Ondelat qu'à Steve McQueen. Et Bruce Lee semble avoir une coupe de Playmobil vissée sur la tête. Et enfin, Sophie Masson nous écrit... Je suis allé voir le Tarantino, j'en suis ressorti désappointé, d'autant plus que j'avais lu cet été le très beau et sensible, ça c'est vrai, roman d'Emma Klein, The Girls. La façon dont Tarantino a pillé ce roman et en a fait un film ennuyeux et stupidement sordide me désole. Voilà, tu
j'ai
vois.
Une copine, voilà.
Sophie Masson, Le Herpeur, oui, effectivement.
Ouais, voilà, c'est ça.
Bon, rien à ajouter. Non, Jean-Marc, rien. Nicolas, non.
Non, c'est un des plus beaux films de l'année et qu'il faut aller le voir. Et...
ah ben, ça s'est fait 2 millions d'entrées à ce jour en France, ouais, absolument.
Ouais, mais c'est bien.
Bah allez. C'est bien. Marine Le Pen est arrivée au deuxième tour, donc tout va bien.
Oh non.
On y va ou pas là?
Je veux plus de courrier. Je veux plus
de courrier. C'est le prochain rôle d'Isabelle Huppert.
Non, je veux plus de courrier.
Il faut des films pour ces gens-là aussi. Oh.
Allez, Roubaix Lumière, le film et premier polar social d'Arnaud Desplechin qui était en compétition à Cannes avec Roche Dizem, Léa Seydoux, Sarah Forestier, Antoine Reinhardt, Philippe Duquesne, un film inspiré d'un fait divers qui s'est déroulé en 2002 dans la ville natal de Desplechin. D'ailleurs, il y a eu un très bon documentaire, Roubaix, commissariat central sur le sujet de Moscou Boukou. Le soir de Noël, Daoud, le chef de la police incarné par Roche Dizem, patrouille en voiture avec Louis, jeune lieutenant. Et nouvelle recrue, c'est Antoine Reinhardt. Ils sont appelés pour le meurtre d'une vieille dame dans un quartier difficile. Les soupçons se portent sur les jeunes voisines de la victime, Claude et Marie, Léa Seydoux et Sarah Forestier, qui sont cumulardes puisqu'elles sont à la fois toxico, alcoolo, chômeuses et amantes. Et dans le rôle du flic célibataire, amoureux des chevaux de course, mais pas joueur, empathique et intuitif, on le croirait sorti d'un roman de Simenon. Roche Dizem, que j'ai trouvé absolument émouvant au possible. Eric.
Ah bah c'est un conte de Noël, mais version très noire là, ce coup-ci. C'est la ville natale de, oui, de Desplechin. Il la filme comme personne là. On est dans les ténèbres, on est dans un pays, un monde complètement délabré, avec des maisons de briques trop grandes pour les habitants, une misère qui soigne de partout. C'est un film qui sent la bière éventée. On est vraiment avec tous ces gens. Tout le début montre le quotidien d'un commissaire de police là-bas, avec les agressions, les voitures en feu, une fugueuse qu'on essaye de retrouver. Et ce Roche Dizem, là, il trouve un grand rôle. Là. C'était déjà un bon acteur, mais là, il a quelque chose de minéral. On voit qu'il en a vu d'autres, et la lumière du titre, c'est lui. C'est que là-dedans, il arrive à sourire. Il sait reconnaître un coupable ou un innocent dès la première seconde, comme un peu Maigret, tu avais raison de citer Simenon. Le film est très simenonien, alors qu'apparemment...
Même si sa référence est Hitchcock, et c'est le faux coupable. Hein.
Oui, mais les auteurs se trompent souvent sur ce qu'ils aiment et ce qu'ils font. Alors, et tant mieux, hein, parce que c'est pas du tout un film d'Hitchcock, parce que c'est pas un film à suspense, ça n'est pas du tout un film policier, c'est un film sur des policiers. Et c'est intéressant aussi de mettre dans une ville un commissaire, le patron de ces flics, qui soient arabes et musulmans, avec le petit nouveau qui arrive, qui lui prie dans sa chambre d'hôtel et qui va découvrir ce que c'est que la médiocrité, le mal, avec un petit thème, le mal au quotidien, le mal banal, et avec ces deux filles qui sont totalement paumées, incarnées à la perfection par Léa Seydoux, qui peut être à la fois une héroïne de Mission Impossible, une égérie pour je ne sais quelle marque de luxe, et cette fille paumée, ces deux filles qui se dénoncent, qui se comptent.
Elles sont bien abîmées, hein.
Ouais, elles sont bien abîmées, mais le film est très très poétique, bizarrement. Ce Roche Dizem qui aime les chevaux, qui va aux courses sans jouer,
et qui ne joue pas, je l'ai précisé, hein.
Et qui à minuit va dans le parc où il jouait enfant, et le film est de toute beauté.
Mais c'est
Nicolas.
C'est intéressant que tu cites le faux coupable, parce qu'effectivement il cite beaucoup le faux coupable, qui est le seul film d'Hitchcock où Hitchcock avait fait table rase du romanesque et de ce sceptique, et voulait vraiment coller à la réalité. Et là c'est ce que Desplechin a dit à longueur d'interview, qu'il voulait coller à une réalité. Et moi je trouve le film vraiment passionnant, même dans son côté bancal. Je trouve que Desplechin n'arrête pas depuis quelques temps de défricher des terres un peu comme ça inconnues. Il avait commencé de manière assez significative avec son film avec Benicio del Toro et Mathieu Amalric, psychothérapie d'un Indien des plaines. Si je dis pas de bêtises, je ne sais plus.
Jimmy P.
Et il va sur des terres, vraiment, il s'aventure sur des terres nouvelles. Et même si je trouve que le film n'est pas complètement abouti, parce qu'il y a vraiment deux parties. Il y a une première partie, effectivement, qui retrace le quotidien du commissariat de Roubaix, un quotidien très fragmenté où on passe d'affaires assez dérisoires à d'autres beaucoup plus tragiques. Et là, il mélange des comédiens professionnels, des gens de là-bas. Ça marche pas toujours bien, mais il y a toujours comme ça au milieu, il y a ce socle qui est Roche Dizem, mais ce regard qui est formidable. Et dans la deuxième partie, il rentre dans l'intrigue. Dans cette affaire avec ces deux jeunes femmes. Moi, je suis pas très convaincu par Léa Seydoux au début, mais c'est là où le film est aussi passionnant, c'est que ça devient une forme de litanie, de garde à vue, d'interrogatoire, et le film devient presque une suite de répétitions théâtrales où les actrices sont de mieux en mieux, et plus ils vont vers une forme de vérité judiciaire et dramatique, plus le film est convaincant. Et voilà, je trouve que le film est vraiment déborde de choses passionnantes, et ça rejoint aussi Desplechin. On se dit où est Desplechin là-dedans, et je pense qu'il y a aussi toute une dimension psychanalytique, et il y a une forme de défense du flic en psy des classes pauvres que je trouve vraiment intéressant, parce que Roche Dizem ne cherche pas la vérité, c'est comme s'il la détenait déjà, il cherche plutôt à libérer les deux coupables du poids de leur culpabilité, et ça c'est assez beau.
Xavier.
On va gagner du temps, parce que je suis tout à fait d'accord avec Nicolas. Je trouve la première partie, même de temps en temps un peu embarrassant, parce que la sociologie de la pauvreté, il y a des séquences qui ne fonctionnent pas du tout, le type qui vient dénoncer l'incendie de sa voiture, qu'on devine coupable, je trouve qu'on met du temps quand même, y compris dans l'écriture, à arriver là où on sait très bien qu'on va arriver. Je suis d'accord avec toi, l'apparition des personnages de Léa Seydoux et Sarah Forestier, c'est quand même super chargé, et on se dit, oh là là, va falloir nettoyer tout ça. Et puis, Nicolas l'a très bien dit, il y a une deuxième partie, on est dans garde à vue, subitement la caméra n'est plus vraiment une ballerine, comme le dit Eric Neuf dans son livre, mais au contraire quelque chose de beaucoup plus terrestre, de beaucoup plus terre à terre, et subitement des choses qu'on a vues mille fois d'interrogatoire, de manière comme ça de repousser les suspects dans leur retranchement, ça devient une tragédie, ça devient une tension absolue. Les comédiens, citons Antoine Reynard quand même, qui est absolument formidable aussi. Là, il y a un quatuor, bah si, je le dis, Nicolas Chalère a fait comme ça, et là, il y a une tension, il y a une intensité qui, moi, m'a pris, alors que vraiment, au début, j'y allais pas.
Jean-Marc.
Ben non, moi je suis pas très convaincu par le film et je suis vraiment le premier surpris parce que je suis un très très grand admirateur d'Arnaud Desplechin et c'est vraiment le premier film de lui dont je suis ressorti extrêmement désorienté. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'intéressant théoriquement dans sa manière de plaquer sur un corps extrêmement réaliste, une sorte de fausseté assumée du cinéma avec une musique symphonique, un climat un peu melvillien, mais pour moi le film a du mal à trouver son territoire. Mais ce qui me gêne, surtout moi, c'est le personnage de Rush Dizam et cette espèce de compassion. Pour moi, le modèle, à mon avis, c'est Bruno Gans dans Les Ailes du Désir. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de personnage détaché, qui a une hauteur de vue et une empathie très très forte, sauf qu'il est aussi flic et qui punit les gens dont il est empathique. Et il y a une forme de renoncement et de fatalisme social dans le film que je trouve assez désagréable et assez peu sympathique, notamment une scène où Rush Dizam explique comment le personnage de Léa Seydoux, que par ailleurs je trouve génial dans le film, est un peu condamné à faire ce qu'elle a fait, et il n'y a aucun horizon à cette espèce de fatalité sociale qui est presque héritée du cinéma français des années 30, qui moi me gêne un peu. Il y a une forme de poisse que Desplechin filme de manière glauque et qui m'est assez irrespirable.
Roubaix, Une Lumière, le film d'Arnaud Desplechin. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film? Oui, dans le public. Ah oui, il y a plein de mains qui se lèvent. Le micro vient vers vous, monsieur, bonsoir.
Oui, bonsoir. Je suis d'accord avec ceux de vos critiques qui ont défendu le film. C'est un très beau film. J'étais impressionné par la force tranquille à l'Ino Ventura de Rush Dizem. Et Antoine Reinhardt prouve qu'on a eu raison de lui donner le César du meilleur second rôle pour 120 battements par minute. Maintenant, je voudrais pousser un coup de gueule. C'est à propos de la musique dite originale de Grégoire Hetzel, qui d'ailleurs est très belle, très romantique, qui accompagne très bien le climat visuel du film. Le seul problème, c'est que ça n'est pas, à mon sens, une bande originale, mais c'est un copier-coller de Richard Wagner, excusez du peu. Si vous téléchargez la bande originale sur Internet, ce que j'ai fait, et le seul nom de Grégoire Hetzel apparaît sur cette bande originale, et le seul nom de Grégoire Hetzel apparaît dans le générique de fin du film, vous constatez que certains des passages de cette bande-son, et notamment le passage intitulé « Vers la prison », qui est peut-être le plus beau d'ailleurs du film sur le plan musical, sont un copier-coller du prélude du troisième acte de Tristan et Isolde de Richard Wagner. Donc je trouve qu'il y a trop de compositeurs de musique de film aujourd'hui, c'est d'ailleurs assez fréquent, beaucoup plus qu'on ne le pense, qui ont tendance à faire les coucous dans le nid des grands compositeurs, la moindre des choses serait qu'ils reconnaissent.
Merci pour votre intervention. Je crois qu'il y a des mains qui se lèvent de l'autre côté du théâtre de l'Alliance française. Bonsoir.
Ce que je trouve que vous n'avez pas dit, que c'est son premier film, me semble-t-il, pas autobiographique. C'est, pour une fois, il écrit un scénario original qui n'est pas l'histoire de sa vie, ce qui n'a été que ça jusqu'à maintenant.
Et c'est aussi son premier polar social.
Il y avait Esther Kahn quand même. Ouais, il y avait Esther Kahn qui était un film très romanesque.
Jimmy P, La Sentinelle, je ne sais pas.
Enfin, reconnaissez quand même que ses films sont sérieusement sa vie.
Bon. Et une partie de son œuvre en tout cas.
Okay. Donc ça, il faut quand même lui reconnaître ce film, bon, cette manière. Ensuite, j'ai trouvé que... Moi, j'ai un copain qui m'a envoyé un texto en disant qu'il aimait beaucoup et qu'il deviendrait... Il avait presque envie de devenir commissaire tellement Rush Dizem est absolument génial dans ce rôle. Je trouve ce que vous ne dites pas, c'est que Sarah Forestier est à tomber par terre. Je fais toujours des prévisions qui sont justes. Je suis sûr que Rush Dizem et Sarah Forestier seront nominés au César.
Au César. Alors, en revanche, ils ont tous quitté le Festival de Cannes sans avoir rien, aucun...
Il y a des très bons films qui n'ont jamais été couronnés et des films moyens qui ont été couronnés.
Juste encore une intervention derrière vous et après on va passer au film suivant. Bonsoir.
Bonsoir, pardon, je triche un peu, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu la bande-annonce qui m'a donné l'impression que c'était un téléfilm policier. Donc je suis assez intriguée par ce que disent les critiques et ce que dit le public, et ça me donne envie d'aller le voir. Voilà.
Ben, ça plaide quand même pour aller voir les films et pas simplement les bandes-annonces, parce que c'est pas forcément... Non, mais je dis ça sans rire. C'est pas forcément... Enfin, encore que certaines sont des résumés presque impitoyables des films, parce qu'on a l'impression d'avoir déjà vu le film.
C'est plus difficile avec celui-là.
Voilà.
Il n'y a pas vraiment de résolution.
Donc allez voir les films quand même, pour vous faire un jugement. Toujours à Cannes et en compétition, il y avait Frankie, le 9e film de l'Américain Ira Sachs. Avec Isabelle Huppert, mais est-ce qu'il y a désormais un film sans Isabelle Huppert? Non. Brendan Gleeson, qui joue ici son mari, Marisa Tomei, Pascal Grégory, qui joue son ex, Greg Kinnear et Jérémy Régnier. Et Isabelle Huppert, c'est Françoise Clermont, alias Frankie, célèbre actrice française condamnée par la maladie, les mois qui lui restent à vivre. Eh bien, elle décide de les passer en famille, une famille recomposée au bord d'une piscine, sous le soleil de Sintra au Portugal. Et là, chacun va de son couplet sur Frankie, qui est au centre donc de toutes les relations, vous l'avez compris, entre les uns et les autres, d'un crépuscule à l'autre. On solde les vieilles rancœurs, on raccommode ce qui est déchiré, pendant que peu à peu, Frankie disparaît. Est-ce que c'est un film avec Isabelle Huppert que tu aimes, ça, Eric?
Tu veux me faire dire que j'ai fermé les yeux chaque fois qu'elle apparaît
scène? Non, mais j'aurais savoir, parce que...
Non, non, mais c'est un film sur Isabelle Huppert, puisqu'elle joue une star française internationale.
Oui, mais qui se meurt.
Oui, mais faudrait pas trop le dire non plus, parce que...
Bah, c'est le vrai problème, ouais. Parce que moi, je le savais pas en allant le voir, et c'est ce qui participe de l'intérêt du film, c'est de le découvrir au fur et à mesure. Et malheureusement... Mmh. Et
on met presque une demi-heure quand même à le comprendre, tout à fait.
Oui, ouais, parce que le début est très embrouillé.
C'est ça qu'on revoit le film, en fait, on revoit ce qu'on a vu avant en perspective, et c'est ça qui rend le film vraiment intéressant.
Non, Ira Sack, c'est le seul cinéaste américain qui arrive à dire adieu en portugais, en rassemblant toute cette famille dans la ville de Sintra. C'est un très très beau film, très mélancolique, très délicat, et qui rend Isabelle Huppert presque émouvante. Il y a une scène où, par hasard...
Ça, il faut garder ça.
Là, c'est culte, hein.
Ah, oui.
Ça ne se reproduira pas.
Presque émouvante, hein.
Où elle assiste pratiquement par hasard au 88e anniversaire d'une dame de l'endroit. Et elle a à ce moment-là une espèce de sourire, un regard perdu dans le vague, et on voit qu'elle pense vraiment à autre chose qu'au gâteau qui est sur la table, qu'elle pense à son avenir et à la brièveté de celui-ci. Et le film est compliqué, mais plein de petits méandres, plein de charme, plein de gravité. Et c'est un film sur la famille, et la famille, c'est quand même la chose la plus romanesque du monde. Et ça réussi un truc qui est léger.
On le verra bientôt d'ailleurs avec...
Fête de famille.
Le film de Cédric Kahn. Oui,
c'est un petit film, mais très délicat, et très touchant et très réussi.
Xavier.
C'est pas un petit film. On a toujours l'impression qu'effectivement, Ira Sack fait des petits films, parce qu'il n'y a pas de grands mouvements de caméra, il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de dystopie, il n'y a pas de, on inverse le cours de l'histoire, comme chez Tarantino. C'est un film extrêmement intelligent, extrêmement bien pensé et bien posé en termes de caméra. Voilà, on sait très rapidement quand même quel humour sont comptés, me semble-t-il. Et autour de cela, on n'est pas du tout dans la tragédie, on est dans des espèces de balais comme ça, un peu des hypocrisies, comme ça, des fausses conversations, des choses perfides, mais qui sont toujours à fleur et mouchetée. C'est extrêmement bien écrit. Il a une manière de travailler le plan fixe et de faire circuler les personnages à l'intérieur de ce plan, de ce cadre, qui sont extrêmement intéressantes, qui apportent énormément de fluidité au film. Je le trouve toujours... Oui, les dialogues sont pile ce dont on a besoin pour comprendre les choses, et le reste va aller comme ça, un peu sur le hors-champ, un peu sur le non-dit. Il y a un bracelet.
Sur un ton un peu tchékovien, d'ailleurs.
Mais oui, sur un ton toujours comme ça, un peu... Et pourtant, les perfidies, les hypocrisies, les petites rancœurs sont là. Il y a un moment où Pascal Grégory, un de ses premiers maris, lui dit « Tout ne tourne pas autour de toi », et Isabelle Huppert, qui est Isabelle Huppert à mort dans cette scène-là, fait « Ah oui ?» Donc on imagine que la comédienne rejoint le personnage ou que le personnage...
C'est là où Eric a eu un orgasme.
Est très proche. Mais je trouve que le
c'est
film...
C'est classé X, hein.
Sur le drame, il y a une sérénité. Sur la tragédie, il y a de l'humour. Il y a ce bracelet que tout le monde convoite, qui pourrait être le seul héritage qu'elle laisserait à ses enfants, qu'on ne verra jamais en gros plan. Reisbach ne va jamais nous le montrer, ce bracelet. C'est toujours à travers le regard qu'en ont la fille, la petite fille d'Isabelle Huppert. Oui, parce que pour la première fois, elle admet qu'elle pourrait être grand-mère. Vous imaginez l'exploit?
C'est pire que moi.
Ça devait être difficile pour elle, quand même. Et je trouve que voilà, tout ça est une intelligence sans nom et arrive à une fin que je ne raconterai pas, mais qui est un moment absolument superbe de suspension de temps et d'émotion.
Jean-Marc.
Oui, c'est vraiment un faux petit film, et c'est un film qui n'est pas du tout mineur, même si...
À Cannes, il a été considéré comme un petit film, hein,
Cannes,
par tout le monde.
Il a vraiment été très mal vu.
C'est incroyable, il est passé à travers tout.
Oui, parce qu'il y a quelque chose de très mineur dans sa forme, parce que tout est minoré. La dimension de mélodrame est minorée, tout est extrêmement délicat et à feu doux, mais ça atteint des zones extrêmement profondes. Et pour moi, il y a une sorte de grandeur dans le film, mais plutôt sur la profondeur que sur la surface. Moi, j'adore la manière dont il filme les extérieurs. 85% du film est un extérieur, et le film est construit narrativement sur des promenades que font les personnages par deux, et la manière dont
c'est par couple, voilà, le plus souvent, hein.
C'est au centre Isabelle Huppert, mais le film trace des cercles de plus en plus larges et inclut de plus en plus de personnages. Parfois on arrive assez loin d'Isabelle Huppert jusqu'à une sorte de teen movie portugais assez beau, et la manière dont il fait glisser les sentiments des personnages sur les paysages, c'est vraiment très très beau. Il y a un geste profondément impressionniste dans le film qui me touche profondément, et Isabelle Huppert est vraiment géniale et assez différente, parce qu'on connaît plutôt son travail sur la dérision, une sorte de distance. Là, elle est très dépouillée, très à nu et très très émouvante.
Nicolas.
Je suis assez d'accord. Moi, j'avais peur en y allant, parce que j'ai vu après Cannes, et en revenant de Cannes, effectivement, j'avais l'image d'une espèce de film.
Mais tu l'avais vu à Cannes ou pas?
Non, je l'avais pas vu à Cannes.
Pas du tout à Cannes.
Après,
t'aurais pu le revoir une deuxième fois.
J'ai préféré ne rien en savoir, et j'avais peur du côté carte postale euro-chic entre gens de goût, comme ça, et un film un peu précieux et pas très profond. Effectivement, c'est tout l'inverse. C'est un film assez délicat. C'est un film pour moi sur la solitude en famille. C'est-à-dire qu'effectivement, ils se sont jamais ensemble. C'est un film choral où personne n'est jamais ensemble, où on sent vraiment à quel point on peut se sentir seul et isolé dans une espèce de clan où les proches, les amis, les ex sont ensemble. C'est un beau film, un film sur l'approche de la mort, un beau film testamentaire, en plus balnéaire avec le soleil de Sintra. Et puis moi je trouve que Huppert, qui effectivement j'allais dire que j'ai rejoigné un peu Eric ces derniers temps, parce que je trouvais qu'elle tournait trop, et qu'on a vu la catastrophe de Greta récemment où son image finissait par vampiriser tout ce qu'elle tournait. Là c'est l'inverse, c'est comme s'il prend son image au départ, on la voit arriver à la piscine majestueuse avec son et en même temps comme ça très hautaine, et petit à petit le film comme l'a dit Jean-Marc la dénude et la rend de plus en plus humaine et la fragilise, et c'est en ça que je trouve que le film aussi est très émouvant. Chaque interprète est pas choisi pour rien, il vient avec tout un passé de cinéma et un bagage de cinéma, et moi j'étais ravi par exemple de retrouver Marisa Tomei qui incarne une comédie new-yorkaise et qui est comme ça une pétulance, et en même temps avec l'âge qu'elle a aujourd'hui c'est très beau de la voir, et voilà, je trouve qu'il y a une intelligence du casting, de l'écriture et une forme de délicatesse qui m'ont vraiment assez surpris.
C'est Francky avec Isabelle Huppert et c'est signé Ira Sachs. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film? Non. À Cannes encore, cette fois c'était à la quinzaine. C'est une soirée un peu consacrée à la croisette. À Cannes donc il y avait à la quinzaine des réalisateurs Une fille facile de Rebecca Zlotowski avec Mina Farid, avec l'icône de Xavier, Zaya Dehar, Clotilde Courau, Benoît Magimel, Nuno Lopez, Naïma, c'est Mina Farid qui a 16 ans, qui vit à Cannes où sa mère est femme de ménage dans un palace. Sa cousine Sofia, c'est donc la fameuse Zaya, la fille facile du titre, en fait une escort girl, qui débarque pour passer les vacances avec elle, et les deux vont rencontrer deux playboys. Un riche cadre brésilien et son ami français, c'est donc Nuno Lopez et Magimel. Tandis que Naïma découvre le monde de l'argent facile et des yachts, mais pas celui des riches footballeurs. Tout cela très cousu de fil blanc. J'ai été stupéfait par la presse. Je dois l'avouer, absolument unanimement dithyrambique, donc je vous le dis avant que vous parliez, où j'avais l'impression à chaque article que Zaya était la nouvelle Bardot. Je pense qu'on peut se calmer un peu, mais dites-moi quand même ce que vous pensez. Bah tiens, on va commencer avec Jean-Marc, qui a fait le sacre de Zaya dans Les Inrecuptibles.
Bah si on a ce pouvoir, mais en tout cas, je ne sais même pas s'il est la nouvelle Bardot. Mais en tout cas, le film travaille sur l'imaginaire de Bardot.
Déjà, la formule « le film travaille », je supporte plus. Alors, il faut changer, tu trouves autre chose. Le film fait ce qu'on te veut, mais le film ne travaille pas, non?
Bah si, c'est vraiment un film qui travaille, parce que Rebecca Zlotowski est quelqu'un qui travaille, qui réfléchit beaucoup, et qui en même temps réussit un film extrêmement sensoriel, tout en ayant beaucoup réfléchi en amont. L'imagerie de Bardot, en tout cas, est très présente dans le film, et donc c'est pour ça qu'on la compare à Bardot, mais aussi pour son élocution, que je trouve, moi, absolument craquante, charmeuse, sa manière de détacher chaque syllabe, qui a quelque chose d'assez romérien, qui du coup joindrait à Bardot un côté un peu Ariel Dombal, qui moi me ravit absolument dans le film.
C'est une vacherie ça, non?
Ariel Dombal chez Romère, excuse-moi, elle était vraiment géniale. Et au-delà de Zaya, qui quand même est une des très très grandes forces du film, le film est magnifique. C'est que Rebecca Zlotowski, c'est une cinéaste qui a toujours été très intéressante, mais pour moi, là, c'est son premier grand film. Il y a quelque chose d'évident dans ce geste, il y a quelque chose de lumineux dans le film, de limpide. La manière dont elle montre comment un corps social va exploiter un corps désirable et le recracher d'une manière impitoyable, c'est exemplaire, c'est très cruel, c'est vraiment un conte cruel, aussi un conte très moral, et en même temps, une comédie extrêmement réussie.
Qu'en penses-tu, Nicolas?
Moi, j'y vois pas du tout ça. Enfin, j'ai un problème avec. J'aime pas beaucoup le cinéma de Zlotowski depuis le début. Je vois vraiment à chaque fois le devoir. Comme tu disais, effectivement, tout est lisible, tout est limpide. Mais moi, à un moment, tout est tellement lisible, tout est tellement limpide. J'ai l'impression de voir un devoir de bon élève de la Fémis. Mais très incarné, par Zaya, qui. Alors, c'est une incarnation, on va dire. J'allais dire, c'est un film factice, mais pour le coup, il y a une incarnation très factice aussi. Alors, c'est aussi le discours du film. Ça fait partie de ce que travaille le film, mais je trouve ça vraiment de manière très scolaire, c'est-à-dire qu'on tout est très attendu. Alors les emprunts à Romer sont très visibles pour qu'on comprenne bien que ça fait, alors que chez Ira Sachs Romer est là, mais alors c'est vraiment un souvenir, un fantôme, on pourrait ne même pas le ressentir, c'est plus l'esprit de Romer. Là, c'est tout ce qui est toute la superficialité qu'on peut tirer. Alors il y a une citation de la collectionneuse, alors on filme Zaya bien sûr parce que tout est bien prévu, c'est Bardot, alors on la filme sur un port avec sa marinière, on pense à éduquer la femme, on fait même une espèce de remake de la scène du mépris où là c'est elle qui est au-dessus de l'homme et qui lui dit, alors c'est ce moment elle lui demande,
est-ce que tu aimes ou je
oui,
mets mon
est-ce
doigt
que tu aimes que je mette mon doigt,
ce qui est vraiment un détournement féminisme génial du
mais mépris. oui mais c'est juste ça,
mais le mot génial n'est pas suffisant.
Oui, mais le problème c'est qu'à chaque fois la scène se résume à ça, à une idée bien pensée, bien placée, et la scène s'arrête et elle ne creuse jamais, ça reste tout le temps en surface, tout ça avec des effets de style
inversés érotiquement, la scène du mépris qui est une
mais oui mais c'est que c'est
cinéma français,
ça ne va pas plus loin avec
fort en soi,
avec un clair obscur très Jacques Audiard, que y a un cinéaste que tu aimes beaucoup, je sais, il y a beaucoup d'empreintes très stylistiques à Jacques Audiard aussi.
Il y a déjà un mélange comme mépris, tu vois, je pense que c'est plutôt la
oui, mais enfin le mépris c'est on est en pleine lumière, c'est beaucoup moins,
non pas du tout, non
ah oui il y a une ombre, mais c'est beaucoup plus, c'est beaucoup un peu plus subtil quand même. Voilà, je sens tous les clins d'œil qu'il faut où il faut. Magimel est surnommé Socrate bien sûr parce que c'est l'homme parfait, l'homme de la morale qui ne, enfin voilà, je vois vraiment un travail tellement, alors avec derrière toute le marketing bien huilé autour du fait de vendre Zaya comme la nouvelle Bardot. Je suis désolé, mais Zaya, elle on sent aussi que elle a à chaque fois 2-3 répliques, pas plus, parce qu'elle est pas bonne, elle arrive à être aussi mauvaise que Bardot et Bellucci à leur début, ce qui est quand même
en tout cas elle est pas destinée à avoir les rôles d'Isabelle.
Non mais c'est Père, ça, c'est-à-dire que
selon moi c'est une chose qui est claire.
Non, allez, moi je vois
Eric,
vraiment
je t'arrête parce qu'on a on aura d'autres films à voir. Eric.
Bah déjà on a Zaya pour le prix d'une place de cinéma. C'est beaucoup moins cher que ce que ça a coûté à Ribéry. C'est l'avantage du film.
Peut-être
ça...
toujours aussi raffiné.
Ah oui.
Et on vient m'emmerder avec l'idéologie de Tarantino. Ah, bah.
Non. C'est un film, Nicolas a raison, c'est un film de Normalienne, c'est un film appliqué, laborieux, qui remplit des cases. C'est, si on veut voir un bon film sensuel, plein de chaleur sur un été d'adolescent au bord de la Méditerranée, il faut voir la première partie de Make to My Love. On y pense sans arrêt, on se dit, mais c'est moins bien. Il y a même un tout petit cunnilingus, là, mais tout petit. et tout le film
c'est
est comme ça.
C'est quoi un petit cunnilingus? Enfin, c'est un film qui travaille le cunnilingus, mais très peu.
Non, là,
Zaya. Juste à l'entrée, tu veux dire.
Enfin... Elle est mignonnette, mais c'est un gadget. C'est vraiment ce film qui est très bling-bling, qui ne parle que de yacht, de fric. C'est comme un faux sac Chanel. C'est creux, c'est appliqué. C'est pas parce qu'il y a deux types sur un bateau qu'il faut évoquer plein soleil, ni parce qu'il y a une fille à poil qui, faut la comparer à Bardot dans le mépris, là, on tombe sur la tête, vaut mieux aller acheter des cartes postales sur un tourniquet, sur la croisette.
Xavier?
Je vous comprends pas, moi je suis totalement d'accord avec Jean-Marc. Je trouve que c'est un film absolument magnifique. Oui, elle est normalienne. Oui, elle est cérébrale. Rebecca Zlotowski, mais pas au point de claquemurer son film. Son film, il est quand même brûlant de tous les interdits, de toutes les envies possibles, de toutes les frontières sociales, érotiques. Il y a une scène quand même où la jeune cousine joue avec des oursins sur un bord de plage. C'est troublant.
Mais y a aucun,
on dirait du
y a
aucun chacun.
Mais c'est aucune... troublant, c'est magnifique. C'est le tellement... petit théâtre de la cruauté sociale, il est pleinement joué.
À c'est l'écaillé du cinéma.
Et qui assumé, je ne vous ai pas interrompu dans votre diatribe, y compris lorsque tu te répondais en propos misogyne. Donc on va essayer de finir. Je trouve le film sensuel, le film âpre, le film méchant. Y a plein de petits détails qui contredisent tout ce que vous venez de dire en vous gossant, les deux mecs, là.
Oui, elles se disputent autour d'un sextant. Attention.
Parce que ça gosse, hein. Non, moi je suis entièrement d'accord avec Jean-Marc. Je trouve qu'il y a des inversions, elles retournent les choses. Je ne dirais pas jusqu'à dire que le film travaille, même si quand même. Mais moi, il m'a complètement emporté, envoûté, je le trouve intelligent, et il y a une cruauté, il y a une méchanceté, il y a quelque chose comme ça qui fonctionne terriblement bien, mais qui n'est pas suffisamment explicité pour que Nicolas et Eric la comprennent.
Magimel n'a jamais été aussi bon depuis longtemps et que c'est pas dans un
monde. Une fille facile, c'est signé Rebecca Zlotowski. Des réactions peut-être sur ce film? Oui, encore. Décidément, vous êtes infidèle.
Gardez le micro, monsieur.
Remplacez-nous. Du temps.
Je suis enfin d'accord, c'est un petit film, les deux garçons là à droite, on a compris, je l'ai vu en avant-première à Beaubourg. J'ai trouvé ça un petit film, j'ai pas osé vous le dire, monsieur Lalanne. Mais effectivement, et vous qui êtes très jeune par rapport à moi, vous n'avez pas connu Bardot en 64, quand j'étais adolescent, à 14 ans, que je passais devant l'affiche du Mépris. Alors vous pouvez pas vous imaginer ce que c'est que Bardot, début des années 60. Elle révolutionne le cinéma français, elle invente des tas de choses, et Zaya, je suis désolé, c'est une petite chose.
Le film joue avec l'image de Bardot, alors, mais je dis pas que Zaya est Bardot. Enfin,
Quant à France Inter, j'ai beaucoup lu dans la presse.
Quant à France Inter, qui nous a fait l'actrice le matin, la réalisatrice le soir, nous parle de Romer, de Godard, de Bardot, je suis MDR.
Merci en anglais. Pour votre intervention. Maintenant, un film qui travaille le corps des personnes, c'est Thalasso. Après l'enlèvement de Michel Houellebecq, il y a 5 ans, Guillaume Niclou emmène l'auteur de Sérotonine en Thalasso, donc à Cabourg. Il y retrouve Gérard Depardieu, ce qui donne d'ailleurs à l'écrivain et au comédien un air assez prononcé de Laurel et Hardy, à poil ou en peignoir blanc, dans des bains de boue ou en cryothérapie, en massage ou sous la douche, les deux curés, ceux donc, en fait, boivent du vin, bouffent du pâté, fument en gâchette. Ils parlent de la mort, de Dieu, de résurrection. Il y a même notre pauvre Houellebecq qui pleure à un moment donné sur sa grand-mère. Est-ce qu'il fallait pour autant faire revenir les ravisseurs de Houellebecq de l'épisode précédent ? Selon moi, rien n'est moins sûr. Xavier ?
Ben oui, malheureusement, c'est un film qui a régulièrement du charme, qui nous apporte un sourire aux lèvres. Il y a un côté simplement dans la rencontre improbable entre Houellebecq et Depardieu dans ce centre de thalassothérapie, quelque chose sujet comme ça à ce qui est quand même le tropisme de Niclou, c'est-à-dire cet absurde un peu inquiétant. Il y a Françoise Lebrun à un moment qui intervient comme ça sur le pas d'une porte, et c'est une scène qu'elle incarne et qu'elle habite et qui va jusqu'à un surréalisme très poétique. Est-ce que tout ça, avec effectivement le faux Sylvester Stallone qui dit avoir couché avec Depardieu, bon, pas très drôle. Il y a des intrigues secondaires, il y a des personnages secondaires qui n'apportent pas grand-chose. Alors on nous explique que la cryo, machin, je sais pas trop quoi. Enfin, le traitement par le froid est très dangereux pour l'entrejambe des garçons. Ça, je veux bien l'imaginer. Voilà des petites séquences qui ne font pas un film. Le film a du charme, incontestablement. Bien sûr, enfin, on lutte pas contre.
Enfin, il faut rappeler ce qu'est le prix d'une place de cinéma. Et encore une fois, j'ai l'air un peu obsédé par ça. Non, quand je vois des pages entières des plus grands journaux consacrés à cette petite chose, je n'en reviens toujours pas.
Non, mais il faudrait qu'il fasse des pastilles de 5 minutes après le JT, parce que ça nous amuserait de retrouver Gégé et Michou après le JT avec une petite 5 minutes d'anti-hygiénisme et de politiquement incorrect, mais c'est amusant une demi-heure. Ouais. Parce que moi, je trouvais que dans l'enlèvement de Houellebecq, qui était passé à la télé et qui était très bien à la télé, l'enlèvement de Houellebecq était très drôle. Il révélait en Houellebecq, je trouve, une nature de deux funès sous Prozac, vraiment. Enfin, cette espèce de, non, mais vraiment, une espèce de corps burlesque, de gueule en caoutchouc. Ah, il y avait des moments après presque citation du Corneau qui reprend d'ailleurs au début. Il y a un peu de, quand on voit son corps dans la machine, la cryothérapie, on pense à De Funès dans le Corneau sous la douche à côté du Malabar. Et Houellebecq est assez drôle. Après, effectivement, ça marche 20 minutes. Et à la fin, il fait revenir les kidnappeurs, tout ça. Ça n'a plus aucun sens. Et moi, j'ai peur que Niclou, étant un grand farceur, qui s'amuse à créer un Houellebecq Cinematic Universe, un peu comme Marvel, où il fasse revenir des, et j'ai peur du troisième avec le chanteur Renaud en Week-end à Center Park. Moi, je crains un peu.
Il vient de lui donner une idée, va la déposer, dépêche-toi.
Donc c'est amusant, mais 5 minutes.
Et t'imagines sa rencontre éventuellement avec Isabelle Huppert, Jean-Marc.
Bah, pour le coup, là, c'est vraiment un film qui travaille pas beaucoup.
Exactement.
Avec un scénario pas très travaillé et un regard sur les deux stars qui ne travaillent pas beaucoup les corps qu'il a en face. C'est-à-dire que vraiment Houellebecq et Depardieu dans le film correspondent à l'idée moyenne que tout le monde se fait de Depardieu et Houellebecq, sans que jamais Niclou n'essaie de les tirer un pas de côté. Effectivement, on l'a dit, le scénario est vraiment tiré par les cheveux. Et moi, vraiment, c'est curieux comme parfois une scène peut vous faire aimer un film et une scène peut vous détacher d'un film. Et moi, la scène avec Françoise Lebrun dans son propre rôle, qui évoque la maman et la putain, et le film se moque d'elle, et au-delà d'elle, on a l'impression qu'il se moque de Jean-Pierre Léo et qu'il se moque de la nouvelle vague et d'une idée du cinéma. Cette scène, moi, me fait froid dans le dos.
Et on comprend qu'aucun des deux n'a vu le film d'ailleurs.
Enfin, Eric.
Ben moi, j'ai trouvé ça très marrant. Non, mais c'est un tout petit film, mais ça, évidemment, ça travaille pas, parce qu'ils font ce qu'ils veulent, ce qui leur tombe sous la main, sous l'œil, et c'est un documentaire sur Depardieu et Houellebecq, mais Houellebecq.
Non, c'est pas un documentaire, mais non. Plus intéressant, et serait moins, serait.
Mais non, mais ils sont géniaux, ces deux-là. Je sais pas si les rôles étaient.
Tu veux envoyer les gens voir ça?
Non. Alors, non, parce que, attendez que ça passe à la télévision, parce que
ah bah, voilà. Ah. Ben voilà. Alors, dans la salle, derrière moi, il y avait Robert Rue. qui n'a pas beaucoup ri.
Robert Hue.
Il est vrai. Secrétaire du Parti de
Sénat. Il est pas en thalasso, en cryothérapie.
Peut-être qu'il voulait faire des repérages.
T'es sûr que c'était pas Georges Marchais?
Non, je l'ai pas entendu beaucoup rire.
Non, mais si vous aimez Depardieu et Houellebecq, allez-y, parce qu'ils sont étonnants. Et pour Houellebecq, le kidnapping, ça doit être un très très bon souvenir, parce que pour lui, c'est pire d'être en thalasso, parce qu'il n'a pas le droit de boire ni de fumer. Alors heureusement qu'il tourne sur Depardieu en peignoir. Non, le film est plaisant, foutraque, mal foutu. Attendez que ça passe à la télévision et vous passerez une très bonne soirée.
Thalasso, Guillaume Niclou, pas de réaction.
Un deuil à la scène finale d'ailleurs.
Alors. Oui. Très peu de temps, j'avais inscrit également Late Night de Nisha Ganatra avec Emma Thompson et Mindy Kaling, Mindy Kaling signe le scénario de ce film où elle raconte en grande partie son histoire. Et Emma Thompson, c'est Catherine, une présentatrice de télé d'un Late Night Show qui commence à sentir le vieux. Et d'ailleurs, la patronne de la chaîne lui annonce que, vu la courbe descendante des audiences, elle va mettre un terme à son émission. Et tout le film, eh bien, c'est l'histoire de la reine Catherine qui se rebiffe et qui, pour conserver son fauteuil, va faire appel à cette jeune femme, Molly Patel, jouée donc par Mindy Kaling, qui est d'origine indienne. Je vous demande rapidement ce que vous en pensez, Xavier.
C'est la caricature tout à fait délicieuse du feel-good movie avec happy end obligatoire. Heureusement, Meryl Streep n'était pas là quand le scénario a été envoyé. Emma Thompson l'a reçu. Donc, subitement, on a une comédienne qui joue, au contraire de Meryl Streep, et qui va jusque au, il faut quand même dire les choses, tout petit peu, et qui s'amuse avec son personnage, qui l'endosse, qui n'a pas peur des zones un peu obscures et des zones un peu méchantes comme ça qu'elle peut incarner. C'est merci à Emma Thompson d'exister, et c'est grâce à elle que le film survit.
Jean-Marc.
Oui, vraiment, je suis allé le voir pour l'émission au dernier moment comme une énorme corvée et en te maudissant Jérôme.
Finalement. Que la chute du président, c'est le papier.
Alors, je n'ai pas vu la chute du président, mais celui-là, je l'ai trouvé pas, en tout cas, c'est pas une épreuve. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez fluide.
Je trouve que c'est filmé comme une série. Enfin.
Exactement.
Dans le style d'une série.
Une espèce de programme Netflix.
Voilà.
Il y a vraiment pas d'idée de cinéma. Emma Thompson a la bonne idée d'en faire vraiment des caisses. Et c'est la seule façon de s'en tirer tellement le scénario est programmatique. Du coup, elle est vraiment assez drôle et le film se laisse voir plutôt agréablement.
Eric,
c'est lourdingue votre truc là.
Il envoie les gens voir Thalasso.
Ah non mais là,
il va les priver d'Emma Thompson.
Tu me rappelles le titre de ton livre?
Tout est attendu, téléphoné. Il y a la productrice odieuse, oui, le mari aimant, la nouvelle recrue plus ou moins indienne. On ne sait pas si c'est féministe, misogyne, moderne, contre la télévision.
C'est clair.
J'ai revu après Network. Si vous voulez voir un film sur l'univers de la télévision, un présentateur vedette se fait virer, il n'y a vraiment pas photo entre ces deux films.
Nicolas.
Oui, non, c'est sympathique et en même temps sans grande âme. Moi, je trouve que le film fait un pas en avant, un pas en arrière sans cesse, c'est-à-dire qu'il va vers une forme de. Mais je trouve dommage que, par exemple, on les voit pas au travail.
Comment ça, passer leur temps à ça?
Mais non, mais écrire les blagues, inventer les blagues.
Tu vas pas les voir écrire.
La raison, oui.
Pas beaucoup. Et ouais. Ça, c'est ce que faisait par exemple Judd Apatow. Et je trouve dommage, par exemple, que Mindy Kaling, qui vient aussi de l'école Apatow et qui jouait dans les films de Judd Apatow, qu'on n'ait pas la Judd Apatow féminine, qui serait peut-être d'ailleurs Lena Dunham. Et j'aimerais bien que Lena Dunham, qui fait des séries, passe au cinéma, ça serait sûrement plus intéressant. On est parfois un peu méchant comme l'était Judd Apatow, et puis en même temps on revient tout le temps un peu en arrière et on est un peu plus moral comme peut l'être Capra, avec une forme, un truc un peu plus adoucissant comme ça. Alors que non, Capra était quand même beaucoup mieux. Mais voilà, enfin ça,
Capra, c'est fini.
Mais ça tient grâce au. Ah, elle est bien celle-là.
Il n'a pas osé quand même.
Elle est très bien celle-là. Mais ça tient grâce à Emma Thompson, effectivement, je vous rejoins, c'est pas désagréable, mais c'est pas indispensable.
Late Night de Nisha Ganatra. Et puis 2 ans après Passion et toujours avec Mehdi Idir à la co-réalisation, donc la vie scolaire du slammer Grand Corps Malade avec Zita Enro, Liam Pierron, Soufiane Guérab, et après donc l'hôpital, c'est donc le collège, un collège en zone d'éducation prioritaire en Seine-Saint-Denis où débarque venu d'Ardèche. Samia, c'est donc Zita Enro qui est nommée conseillère principale d'éducation et elle va découvrir ce qu'on sait déjà, c'est que la discipline est une illusion et que la précarité est une réalité, mais aussi voilà, la vitalité, l'humour des élèves, aussi de quelques surveillances. Ça dure 1h51. La vie scolaire, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marc?
Autant Patient était vraiment une très bonne surprise. Ça, c'est vraiment pour moi une grande déception. Patient était vraiment extrêmement bien écrit. Là, je trouve le scénario constamment prévisible. Pour moi, tout est affaibli, c'est-à-dire le réalisme, la dimension sociale du film, par le désir effréné d'aller chercher le rire par des punchlines permanentes. Et on a l'impression, comme dans le stand-up, que vraiment les comédiens jouent pour le public, le regardent quasiment en face et sollicitent le rire d'une manière très insistante qui, du coup, anéantit à la fois les personnages, la vérité des situations. Donc, moi, je trouve le film presque gênant.
Xavier.
Je suis pas loin d'être d'accord avec Jean-Marc en étant un peu moins sévère. Moi qui ai beaucoup regardé Pause Café avec Véronique Jeannot dans ma prime jeunesse.
Ah bon? Même pas à la C'était Pause Café.
Et même pas à la rediffusion. Ouais.
Aujourd'hui, ils en feront
un film. Pas du tout Joël Mazar, mais complètement.
Je t'ai jamais vu, enfin, je t'imaginais pas Pause Café.
Je peux te chanter le générique.
Vas-y.
On entre dans la vie.
On comprend mieux pourquoi t'as pas aimé le Tarantino.
Je prends la voix de Véronique Jeannot.
On comprend beaucoup mieux pourquoi t'as pas aimé le Tarantino.
Je suis un petit peu dans une tessiture élevée. Non, mais Jean-Marc a raison, il n'y a pas de scénario, il y a une succession de petites scénettes qui se veulent très rigolotes de manière un peu forcée, qui parviennent parfois, faut quand même reconnaître aux auteurs un sens du dialogue, de la situation. À un moment, il y a un gamin en larmes qui arrive parce qu'on lui a volé sa gomme, alors du coup, il a volé le 4 couleurs, et puis que voilà, et qu'il y a un monologue comme ça, qui part en vrille, qui est absolument formidable, avec son copain qui l'a accompagné dans le bureau de la surveillante et qui le regarde à la fois un peu effaré et un peu solidaire. Ils savent de temps en temps créer en 30 secondes quelque chose qui ressemble à de la comédie, mais qui ressemble aussi à du stand-up. C'est pas un scénario, c'est prévisible.
Il y a et puis sur le fond, c'est-à-dire l'éducation et la banlieue, on apprend.
Ah bah c'est moins bien que
on apprend strictement rien.
Ah, Véronique Jeannot, moi, elle m'a tout appris.
Allez, Eric, un mot.
Ça n'est pas méchant, mais ça se passe en Seine-Saint-Denis, alors on peut lui donner 9,3 sur 20 au film, en gros.
Oh là.
Cela dit, ça pourrait tout à fait se passer à Clichy-sous-Bois, parce qu'il n'y a que ça dans ce film-là. On sent,
le film est très scolaire comme le titre,
parce que c'est raconter votre année en troisième avec exemple à la pluie, vous avez 1h50. Alors on sent que le gars s'est rappelé d'un tas d'anecdotes et qu'il a demandé à tous ses copains de lui en donner d'autres. Alors chaque séquence est bourrée pour, effectivement, comme le dit Jean-Marc, pour arriver à une punchline en général pas drôle. Et moi je sauve seulement la fille qui joue le proviseur là, qui s'appelle Zita Anroth.
Concert d'orientation.
En Ro.
C'est la conseillère.
La conseillère.
C'est pareil.
Et on l'a vu dans plein de films.
Oui. Ah oui, mais elle est très bien.
Conseillère d'éducation.
Allez, vite.
Je rejoins un peu ce qui est dit. C'est-à-dire qu'on retrouve un peu le bon esprit et la tchatche qu'il y avait dans Patient. Il y avait aussi son concours de vannes, mais c'était beaucoup plus tenu, beaucoup plus frais surtout. Et là, c'est beaucoup plus convenu. Il y a vraiment un effet empilement de scénettes. En plus, qui pompe un peu partout de prof, de Patrick Schulman entre les murs, en passant par Esprit Rebelle et en passant.
Patrick Schulman.
Et oui, c'était mieux.
C'était mieux.
Et en passant par. Alors, et puis une scène clippée façon Je danse le Mia d'Ayam. Alors, on sent qu'ils se sont fait plaisir. C'est pas désagréable, mais c'est pas du grand cinéma.
La vie scolaire, donc, de Grand Corps Malade. Le seul film que je n'ai pas vu de la soirée, je l'ai inscrit pour la fin, évidemment, en quelques minutes. C'est La Chute du Président de Rick Roman Hogue, avec Morgan Freeman dans le rôle du président des États-Unis. Et voilà, et d'après ce que j'ai compris, Gérard Butler, ensuite un agent des services secrets. Voilà. Mais comme je ne sais rien, qui l'a vu ici? Qui a le courage d'y aller? Ah non, aucun de vous?
Aucun de vous? Je croyais que c'était un film sur les gilets jaunes.
Il n'y en a qu'un qui n'a pas de vie, c'est moi. Donc... un coup, j'y suis allé.
En plus de ton émission sur les séries.
C'était inscrit au programme, moi, bêtement, j'y suis allé.
T'es le seul? T'es le seul?
Soutenu quand même.
Quel faillot.
À sur l'affiche, venant de Skyrock, grande référence quand même sur la critique de cinéma, c'est le meilleur des trois. Bah, ça donne pas envie de voir les deux autres, je vous le dis tout de suite.
Il y en a d'autres?
Ah oui, il y a eu la chute de la Maison Blanche, la chute de je ne sais plus trop quoi, et maintenant c'est la chute du président. Voilà, ça chute beaucoup.
C'est comme
la carrière de Gérard Butler, d'ailleurs.
C'est comme la Pause Café, c'est une suite.
Voilà,
quoi.
C'est une suite, donc il a toujours le même président, il va toujours le sauver, c'est du 24 heures chrono. Mais alors vraiment mis en scène de manière mais déprimante, tellement il n'y a pas d'idée, tellement c'est haché menu au moment du montage. Donc Gérard Butler maintenant fait à peu près 90 kilos, ce qui est compliqué... pour essayer de nous faire croire qu'il est quand même le spécialiste des services secrets du président, vu que pour parcourir 100 mètres, il lui faut un quart d'heure. Donc, compliqué quand il faut sauver le président qui est attaqué par des drones. Enfin bon, bref, par des effets de montage, il y arrive. Et puis après, le président, il est dans le coma.
Comment le président après... Il est bien, le président?
Ah ben, il est dans le coma. Alors, Morgan Freeman, alors lui, il a touché le jackpot.
Un jour, il va falloir les lire pour de bon.
Ah mais c'est un super rôle. Une demi-scène au début, une attaque de drone, paf, le coma. Alors évidemment, le vice-président, dont on a compris tout de suite que c'était le méchant, il en profite pour vendre les armes aux méchants. Enfin bref, et Morgan Freeman, jusqu'à la fin du film, il ouvre un peu les yeux et fait
Mais non, mais c'est pas Gérard Butler, le méchant. Ah ! Générique de fin, merci, on peut sortir, où sont les lignes de secours, quoi.
Mais c'est le meilleur film de la soirée.
Bravo, Et Freeman, génial, je sais pas qui est son agent, j'ai pour toi 2 millions, tu vas rester alité dans le coma. Je prends. Ah bah il a pris. Nous aussi, hein, cher, hein.
Eh ben on voit bien, en
comme
tout cas.
Comme dit la caissière, oh, à la séance 13h, vous êtes dans la grande salle, vous êtes trois, je vous donne pas de place, hein, préétablie, vous pourrez la choisir vous-même. Oui, merci, madame.
En tout cas, grâce à toi, on voit exactement ce que ce film travaille. C'est donc la chute du président de Rick Roman Waugh. Allez, un conseil pour finir cette émission commence avec Nicolas.
Apocalypse Now qui ressort là dans une version Final Cut. c'est la troisième version, je crois. Il y a eu
oui, c'est Redux. Ça, la huitième.
Non, mais c'est parce que c'est toujours bien de voir ce film en salle.
Ça se passe toujours au Vietnam.
Ça se passe toujours au Vietnam. Ils ont tout recommencé. Non, mais voilà, il faut voir ce film en salle et c'est l'occasion. Il a malheureusement gardé la scène de la plantation française qui est pas formidable. C'est un peu plus court que Redux, donc il a enlevé un peu. Mais voilà, il faut vraiment voir ce film en salle pour les jeunes qui ne l'ont pas vu, ce qui moi était mon cas, je l'avais pas vu en salle, et alors c'est restauré en 4K et tout ce qu'il faut. Apocalypse Now, il faut y aller, puis on se rend compte que c'est pas qu'un grand film sur le Vietnam, c'est un grand film sur l'impérialisme américain, sur le spectacle, sur l'ivresse du spectacle. Enfin voilà.
Le conseil d'Eric.
La montre d'Errol Flynn, un roman très marrant de François Cereza aux éditions Écriture. Ça commence à un gamin de 4 ans dans les années 50 dans le port de Juan-les-Pins, est avec ses parents et sur un yacht qui s'appelle le Yaka. Errol Flynn offre une montre Reverso à la mère du narrateur et on a trois livres en un. Il y a la biographie d'Errol Flynn, Sacré Gaillard, il y a la biographie du narrateur et en prime, il y a le narrateur qui imagine qu'il est avec Errol Flynn à Hollywood pendant toute sa carrière et le livre est vraiment épatant et c'est un hommage au cinéma qu'on a aimé et un acteur comme il n'en existe plus beaucoup parce qu'aujourd'hui ils sont tous comme Gérard Butler, j'ai l'impression.
Mon conseil, c'est Vif Argent, le premier film de Stéphane Battu. Un film de zombies, c'est très à la mode. Pas totalement, selon moi, réussi, mais très attachant avec la toujours formidable Judith Chemla et Timothée Robard dans le rôle d'un jeune mort qui fait les prolongations sur Terre et qui rencontre donc Agathe, Judith Chemla, et qui, elle, est bien vivante et qui veut de l'amour. Et je trouve que, voilà, à mesure que le film progresse vers la fin, j'ai trouvé ça même bouleversant et il réussit cette chose quasiment impossible au cinéma, c'est donner de la chair aux disparus et des ailes au désir vif argent, le premier film de Stéphane Battu. Le conseil de Xavier.
Bah, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, donc je renchéris.
Ah bon?
Ah ouais, j'adore ce film, moi je suis comme toi. En tout cas, il me donne vraiment un espoir. Tout n'est pas réussi, mais il y a tellement de...
Voilà, je trouve que le début, on sent...
Ouais, mais
ça...
il y a un mystère, zombie, homme invisible, il travaille énormément de figures du genre fantastique, on va dire. Timothée Robard est extraordinaire.
Il est remarquable.
Très silhouette. La mise en scène l'accompagne remarquable. C'est un film modeste, mais c'est un film qui a vraiment de la gueule. Il était à l'Acide à Cannes cette année, qui devient vraiment un vivier de révélations et de choses extrêmement intéressantes. Il y en a plein d'autres qui vont sortir dans le cours de l'année sur lesquels nous reviendrons. Mais je suis comme toi, il faut insister parce que vraiment, un premier film qui est aussi original, aussi intelligent, Paris, la nuit, Judith.
Et puis la fin, justement, la fin qu'on ne raconte pas, mais la nuit. Au-dessus de Paris, au sommet des buttes Chaumont,
c'est
une scène mais magnifique, bouleversante.
Qui travaille des thèmes qui sont la mort, la disparition, l'invisibilité. Vraiment, allez-y, faites-nous confiance parce que c'est vraiment une découverte.
Jean-Marc, merci Xavier.
Alors, en marge de Roubaix une lumière, on peut voir toute l'œuvre d'Arnaud Desplechin à la Cinémathèque française à Paris. On a assez peu l'occasion de voir les films de Desplechin en salle aujourd'hui. Si on les revoit, c'est plutôt en DVD à la télévision. Et revoir Esther Kahn, qui pour moi est vraiment un des plus beaux films du monde en salle, c'est vraiment une expérience très forte. Et en plus des films d'Arnaud Desplechin, Arnaud Desplechin est aussi programmateur d'autres films que les siens dans ce cycle. Il les présente. Il a toujours un discours extrêmement vif et étonnant sur les films. Il présente Les Affranchis, Le Faux Coupable, Les Gens de Dublin. Donc voilà, c'est une très belle manifestation.
Tous ces conseils, vous les retrouvez bien sûr sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Jean-Marc Lalanne, Xavier Le Herpeur, dont vous avez noté le rendez-vous tous les samedis à 20h. Merci Eric Neuhoff et Nicolas Chalère pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin. Avec la collaboration de Lisiane Sélam et ce soir à la Technique au Théâtre de l'Alliance Française. Et je les remercie. Il y avait Marie Le Peintre, Julie Garraud et Pierre-Henri. La réalisation étant signée Xavier Pestugia. Attention, notez bien s'il vous plaît. et que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, c'est le vendredi 13 septembre. C'est à l'Opéra de Nancy pour le Livre sur la Place et pour deux émissions, l'une consacrée toujours à la rentrée littéraire et l'autre à l'actualité du cinéma. Dans une semaine, on parle de livres et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.